de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Indonésie accueille la 36e réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN. Indonésie candidate à l'adhésion au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 2024-2026. Secrétaire d'État américain n'a pas l'intention de rencontrer la Russie ou la Chine lors de la réunion du G20. Premier ministre malaisien déclare qu'une nouvelle stratégie est nécessaire pour faire face à la junte de la Birmanie. Maire de Bogor au Japon ouvre des opportunités pour les exportations et les investissements halal. Ministre indonésien du Commerce a demandé aux représentants commerciaux indonésiens d'augmenter les exportations. Les produits fruitiers indonésiens ont réussi à enregistrer des transactions de 914 millions de roupies en Allemagne. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Indonésie a accueilli la 36e réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, qui s'est tenue dans le bâtiment de l'ASEAN à Jakarta. La réunion est ouverte le 27 février et durera jusqu'au 3 mars 2023 pour discuter des derniers développements et initiatives concernant les droits de l'homme dans la région. La réunion était présidée par le représentant indonésien de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, qui est également président de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN 2023, Yuyun Wahyuningrum. La réunion a réuni 10 représentants suppléants de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme de tous les pays de l'ASEAN. Cette réunion est en ordre du jour de routine de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN pour permettre les discussions et la prise de décisions au sein de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN concernant les questions d'intérêt commun aux pays de l'ASEAN dans le domaine des droits de l'homme. Lors de la 36e réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, l'Indonésie a, entre autres, proposé de tenir le dialogue sur les droits de l'homme de l'ASEAN en 2023, qui est utile en tant que plateforme de dialogue ouverte et transparente pour discuter des questions relatives aux droits de l'homme dans la région. Commémorons les 75e de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a assisté à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au siège des Nations Unies à Genève, Suisse. Lors d'une récente réunion à laquelle ont participé les pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie se nommait membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. La ministre des Affaires étrangères a transmis trois choses lors de la réunion, à savoir une action réelle pour l'humanité, l'intensification des efforts pour prévenir des violations des droits de l'homme et le renforcement de l'architecture des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme ne doit pas être utilisé comme un outil de rivalité géopolitique. Je signale également que l'Indonésie continue de s'efforcer de renforcer les mécanismes des droits de l'homme dans la région, notamment par l'institutionnalisation du dialogue de l'ASEAN sur les droits de l'homme. Et enfin, lors de la réunion, j'ai dit que l'Indonésie était candidate à l'adhésion au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026 avec le thème « Partenariat inclusif pour l'humanité ». Lors d'une conférence de presse en ligne via le YouTube officiel du ministère indonésien des Affaires étrangères, le mercredi 1er mars 2023, la ministre Retno a expliqué lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qu'elle a également souligné le soutien de l'Indonésie à l'indépendance du peuple palestinien, au respect des droits des femmes en Afghanistan et une solution pacifique au conflit en Birmanie et en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré mercredi qu'il n'envisageait pas de rencontrer les ministres des Affaires étrangères russes ou chinois lors du sommet du G20 à New Delhi. Blinken a effectué de brèves visites au Kazakhstan et en Ouzbékistan avant de s'envoler pour la capitale indienne pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. La question de la guerre ukrainienne sera l'une des discussions importantes de la réunion. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Kang participeront à la réunion. Lavrov a précédemment déclaré qu'il avait l'intention de rencontrer au moins 7 ministres des Affaires étrangères avant que l'Inde n'organise mercredi un dîner de gala pour les délégués de 40 pays. La réunion principale du G20 se tiendra jeudi. Au cours de son voyage au Kazakhstan et en Ouzbékistan, Blinken a rencontré des homologues des 5 pays d'Asie centrale avant la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré mercredi qu'une nouvelle stratégie était nécessaire pour persuader la junte militaire de la Birmanie de coopérer avec l'ASEAN pour parvenir à la paix. Selon Anwar, la crise en cours en Birmanie affecte actuellement la sécurité et la prospérité de la région. Après avoir rencontré le président philippin Marcos Jr. à Manille, Anwar a déclaré qu'il appréciait la déclaration de son collègue, selon laquelle le plan de la paix ou consensus en 5 points convenus entre l'ASEAN et la junte de la Birmanie devrait être mis en œuvre. 3 des 5 points de consensus sur lesquels la Birmanie s'est mise d'accord avec les dirigeants de l'ASEAN était la fin immédiate de la violence en Birmanie, le dialogue entre toutes les parties concernées et la nomination d'un envoyé spécial. Les deux autres points concernent la distribution de l'aide humanitaire par l'ASEAN en Birmanie et la visite de l'envoyé spécial de l'ASEAN en Birmanie pour rencontrer toutes les parties. L'ASEAN, qui a longtemps adhéré au principe de non-ingérence dans les affaires souveraines de ses membres, est de plus en plus frustrée par l'absence de progrès de la junte dans la mise en œuvre du plan de paix de consensus en 5 points convenu par les dirigeants de l'ASEAN et les généraux de la Birmanie. Peu après le coup, l'ASEAN, qui se compose de 10 pays membres, a isolé les généraux de la Birmanie lors de diverses réunions de haut niveau de l'ASEAN. Mais la Malaisie, qui a ouvertement critiqué la junte, pousse l'ASEAN à une action plus dure qu'un simple isolement. Le maire de Bogor, Bhima Arya, est parti pour le Japon pour suivre les opportunités de coopération avec l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, afin d'ouvrir des opportunités pour les exportations de durian de Rancamaya et d'investir dans la construction d'un centre d'alimentation halal. Au cours des 2 prochains jours, du 2 au 3 mars 2023, lors d'une visite de travail au pays du soleil levant, Bhima Arya rencontrera des investisseurs potentiels économiques potentiels à Bogor. Le chef de la section de la gouvernance du secrétariat régional de la ville de Bogor, Hidayatullah, à Bogor dans l'ouest de Java, a déclaré mercredi que cette visite faisait suite à la précédente réunion entre Bhima Arya et l'ambassadeur indonésien au Japon, Heri Ahmadi, au jardin botanique de Bogor le 1er février 2023. Hidayatullah a déclaré qu'il était faux qu'un point discuté à l'époque était le potentiel d'exportation du durian Rancamaya vers le Japon. Bhima Arya a déclaré que Hidayatullah tiendra également une réunion avec des investisseurs potentiels du Japon pour la construction d'un centre alimentaire halal. Le ministre du Commerce Zulkifli Hasan a demandé aux représentants commerciaux indonésiens à l'étranger qui dirigeaient la promotion de travailler de manière optimale à l'augmentation des exportations indonésiennes. Les représentants commerciaux à l'étranger sont très importants car ils sont le fer de lance des exportations indonésiennes parce qu'ils servent à l'étranger en tant que représentants des rouges et blancs. Les représentants commerciaux doivent se battre à chaque fois pour l'Indonésie, a déclaré Zulkifli lors d'un briefing lors de la signature de la performance du commerce extérieur en Lampung, mercredi. Les participants étaient des attachés commerciaux, des chefs du Centre indonésien de promotion du commerce ITPC, des chefs adjoints de l'ITPC, ainsi que des candidats au poste d'attachés commerciaux, des candidats au poste de chef de l'ITPC et des candidats au poste de chef adjoint de l'ITPC. La séance d'information faisait partie de la série de réunions de travail du ministère du Commerce de 2023 qui s'est tenue les 1er et 2 mars 2023 à Lampung. Le ministre du Commerce a déclaré que les représentants commerciaux travaillent sur des marchés non traditionnels, doivent développer et accroître l'exploration des marchés d'exportation. Il a également souligné l'importance d'être sérieux dans le travail sur les marchés non traditionnels tels que les régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. En outre, Zulkifli a souligné la nécessité de la créativité des représentants commerciaux pour continuer à promouvoir les produits indonésiens en impliquant des acteurs étrangers. Après avoir donné le briefing, le ministre du Commerce de la République d'Indonésie a signé symboliquement un accord de performance conjointe avec les représentants commerciaux à l'étranger. Les produits fruitiers indonésiens ont réussi à enregistrer une transaction potentielle de 60 000 de dollars américains ou environ 914 millions de roupies lors de l'exposition Fruit Logistica 2023 à Berlin en Allemagne. Le directeur général des Nations Export Développement, Didi Soumedi, a déclaré mercredi dans une déclaration écrite à Jakarta qu'en tant que plus grande exposition mondiale de fruits, légumes et produits logistiques, cette exposition est un lieu de rassemblement pour les acteurs internationaux des services logistiques. Pour cette raison, il a poursuivi, l'Indonésie devrait faire partie de la chaîne d'approvisionnement logistique mondiale. Fruit Logistica 2023 a eu lieu du 8 au 10 février 2023, portant le thème All in One. Cette exposition a réussi à attirer plus de 60 000 visiteurs de 140 pays à travers le monde. Le chef du Centre indonésien de promotion du commerce ITPC de Hambourg, Eka Sumarwanto, a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'exposition Fruit Logistica 2023 devrait montrer au marché international, en particulier à l'Europe, que l'Indonésie peut également créer des produits d'emballage à base de matériaux renouvelables, durables, ainsi que respectueux de l'environnement. Premier participant a réuni deux entreprises indonésiennes du secteur de la logistique, à savoir Humitrap Indonesia SA et Emogaya Karya Indonesia SA. Les deux sociétés sont des fabricants d'emballage et de stockage. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et en pour le titre, les arts indonésiens animent le festival La Journée Malaise 2023 en Thaïlande. Des spectacles de danse d'Indonésie tels que Bajidur Kaot, Pendet et Kinang Kilaras ont animé le festival La Journée Malaise 2023, l'un des plus grands festivals culturels du sud de Thaïlande. Le festival qui s'est tenu dans la province de Yala du 24 au 26 février 2023 a été lancé par le gouvernement de la ville de Yala depuis 2014 pour introduire la culture malaise en collaboration avec le consulat indonésien à Songkhla et le consulat général de Malaisie à Songkhla. Le consulat indonésien à Songkla, dans une déclaration écrite samedi 25 février, a déclaré que la journée malaise 2023 comprenait des spectacles de culture, de mode et de danse, ainsi que des séminaires culturels, des expositions éducatives, des promotions culinaires et des produits typiques des pays participants, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. La participation de l'Indonésie est un bon élan pour continuer à promouvoir l'Indonésie, en particulier dans le domaine de la culture, de l'éducation et de l'économie créative dans le sud de Thaïlande. Les danseurs de l'Université de Galo à Java Occidental auraient interprété les danses Jaipong et Sekar Putri, tandis que Dharma Wanita Persatuan du Consulat Indonésien à Songkla a interprété en contribuant les Sansong Tobelo et Gemu Famire. En plus des spectacles de danse, l'activité de batik guidée par le Yogyakarta Madani Batik Studio a également reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs qui voulaient essayer leur propre batik. Kadin di Jakarta, dans le domaine de l'industrie de la mode, n'a pas manqué de participer à l'introduction des vêtements indonésiens lors du défilé de mode. Le festival a également été suivi par un certain nombre d'établissements d'enseignement indonésien, entre autres l'Université d'État de Yogyakarta, l'Université nationale de Jakarta, l'Université Muhammadiyah du Nord de Sumatra. Ils ont présenté leurs programmes d'études respectifs aux visiteurs lors d'expositions éducatives. Les visiteurs ont également eu l'occasion de goûter à une variété de produits culinaires indonésiens et UMKM de l'Association des entrepreneurs musulmans indonésiens de Bandung et de Dharma Wanita du Consulat indonésien à Songkla. Le secrétaire général du Centre administratif des provinces frontalières du sud de Thaïlande, le contre-amiral Somkiat Polprayon, a officiellement ouvert l'événement de Journée Malaise 2023. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du sous-gouverneur Yala, du maire Yala, du consul indonésien à Songkla et des représentants du consulat général de Malaisie à Songkla. Chers auditeurs, c'était la clé diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 mars 1957, Père Mesta est fondé. Perjuangan Semesta ou Perjuangan Rakyat Semesta en abrégé Père Mesta est un mouvement militaire en Indonésie. Ce mouvement a été déclaré par le dirigeant militaire de l'Est de l'Indonésie le 2 mars 1957. Le centre de ce mouvement était à l'origine à Makassar, Sulawesi du Sud. Mais lentement, le soutien dans le sud de Sulawesi a commencé à disparaître, de sorte qu'en 1957, le siège de Père Mesta a été déplacé à Manado, dans le nord de Sulawesi. Le mouvement Père Mesta a ensuite conduit à un mouvement de rébellion contre le gouvernement central. Pour réprimer cette rébellion, le gouvernement central a lancé plusieurs opérations militaires. Le 17 décembre 1960, Père Mesta a accepté de mettre fin à la rébellion. Passons maintenant à l'événement du 2 mars 1956, le Maroc a obtenu son indépendance. Le Maroc est situé en Afrique du Nord, sur les rives de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, et borde l'Algérie et le Sahara occidental, et fait directement face à l'Espagne. Le Maroc a été autrefois colonisé par le Portugais et les Espagnols. Au début du XXe siècle, le Maroc est devenu un protectorat français. La lutte pour l'indépendance se poursuit soit par la violence. Les efforts du Maroc à obtenir l'indépendance ont été portés à l'Assemblée générale des Nations unies en 1952. La conférence afro-asiatique de Bandung en 1955 a encore renforcé la position du Maroc pour obtenir l'indépendance. Enfin, le 2 mars 1956, la France accorde l'indépendance au Maroc et le roi Mohamed V devient chef du gouvernement. Thank you. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 mars 1959. L'Institut de technologie de Bandung a été fondé. L'Institut de technologie de Bandung, ITB, est une université d'État de la ville de Bandung. Initialement, ITB était un collège technique fondé par le gouvernement colonial néerlandais sous le nom de Technische Hogeschool te Bandung ou TH Bandung. Après l'indépendance de l'Indonésie, TH Bandung est devenu une partie de l'université d'Indonésie, à savoir la faculté d'ingénierie et la faculté des sciences exactes et naturelles. Le 2 mars 1959, la faculté s'est séparée de l'Université d'Indonésie et est devenue l'Institut de technologie de Bandung. Chers auditeurs, c'était l'histoire de journée pour ce soir.
Creation.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
16e longtemps pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « L'Indonésie a lancé un mouvement pour extraire les déchets de TPA ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a lancé un mouvement d'extraction des déchets au site de traitement final, ou TPA, ou d'enfouissement. Des efforts d'enfouissement sont menés pour éliminer des montagnes de déchets, étant donné qu'il n'y aura plus de construction de nouveaux dessages à partir de 2030. Cela a été transmis par la directrice générale de la gestion des ordures, des déchets toxiques et des matières dangereuses du ministère de l'Environnement et des Forêts, Rosa Vivin Ratnawati, lors de la conférence de presse pour le prix Adipura à Jakarta, mardi le 28 février. Selon elle, l'exploitation minière des décharges peut être effectuée sur le déchet en tant que matière première pour le carburant dérivé des déchets ou RDF. L'exploitation minière des décharges est une décharge minière dans une zone inactive avec les caractéristiques des déchets qui ont été décomposés afin qu'ils puissent être réutilisés, prolongeant ainsi la durée de vie de la décharge intégrée de traitement des déchets ou TPST dans l'espoir qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins environnementales. Rosa Vivian a déclaré que l'Indonésie avait l'objectif de réduire les déchets de 30% et de traiter les déchets de 70% en 2025. Il espère que tous les déchets ménagers et assimilés pourront être gérés à 100% en 2025. Dans un effort pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage la mise en place d'un système de gestion des déchets intégrés à jour et professionnel de l'amont à l'aval dans chaque résidence et ville. Sur la base des données du ministère de l'Environnement et des Forêts en 2022, la quantité de tas de déchets mis en décharge en Indonésie atteint 68 millions de tonnes par an, la plus grande composition étant des déchets alimentaires organiques qui atteignent 41,27% et environ 38,20% de la production de déchets provient des ménages. En outre, elle a déclaré que la construction des décharges minières serait encore tolérée jusqu'en 2030. Cependant, le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage chaque gouvernement régional ou municipal à traiter les montagnes de déchets sur le site de traitement final, TPA, par le biais d'activités d'extraction de déchets. Comme par exemple, la TPA de Bantar Gebang qui démarrera bientôt des activités d'extraction de déchets en avril 2023. L'activité minière de la décharge est pour recycler des déchets à Bantar Gebang afin de produire des produits à valeur économique, dont l'ang et le carburant dérivé des déchets ou RDF. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sama-sama meluangkan saat. yang harus ku kata pada dirimu.
Bagaimana cara ku meyakinkanmu ingin ku bersama-sama meluangkan saat-saat berada di sisimu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, en voyageant à Denmark, vous pourrez visiter de nombreux éléments de preuve de l'héritage et de la propagation de l'islam sur l'île de Java. En outre, Denmark propose également une variété de délices culinaires, langue et nasi goreng. Vous pouvez en profiter lors de votre visite à Denmark. Ce plat est issu de recettes héritées du royaume de Bintoro. Le royaume de Bintoro ou Denmark Bintoro fut le premier royaume islamique de l'île de Java. À son apogée, le kindoreng était connu comme la nourriture des gens ordinaires. À cette époque, de nombreux habitants de Denmark aimaient cette nourriture. Le kindoreng est appelé la nourriture des gens ordinaires car les ingrédients alimentaires peuvent être obtenus facilement à partir des plantations. Les ingrédients sont le cœur de banane, le feuille de patate douce, les graines de lame taureau, les fleurs de tori, les jeunes fruits de melandingan, les feuilles de petail chinois et les feuilles de manioc. Après tout, les légumes sont bouillis. Le pain est ensuite arrosé de sauce aux arachides qui était sautée. Ensuite, il est saupoudré de ouillah goreng ou de sel frit qui est fabriqué à partir de noix de coco râpées, rôties, saupoudrées de sel. Ces ingrédients sont ensuite mélangés au riz. La façon de le servir est sur une feuille de bananier qui a été transformée en cône ou ce que les habitants appellent pincu. Chers auditeurs, lorsqu'il est consommé, le kindoreng a un goût délicieux et savoureux. Pour le rendre encore plus délicieux, le kindoreng est apprécié avec d'autres plats d'accompagnement gratuits tels que le sambal frit au tempeh humide, le poisson salé ou chaud, cacahuète kacang, le mendoan frit et le bakwan aux légumes. Ce kindoreng se trouve encore couramment dans les villages de la ville de Denmark. Les vendeuses sont pour la plupart des femmes âgées qui poursuivent le commerce de leurs parents. Le prix lui-même est assez bon marché, c'est de 2500 rupiah à 3000 rupiah par pincu. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
menjalani hariku teraku di bulatmu. Ada selalu ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu. Kau membuatku selalu tersenyum. Ku ingin selalu tahu kabarmu. Aku hanya bisa mencintaimu, bahagia bersama.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on voit la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la plage de Bali et incluse dans le top 5 des meilleures plages d'Asie 2023. La plage de Kelingking à Nusa Penida, Bali est incluse dans la liste des 7 meilleures plages d'Asie pour 2023 sur la base des prix de choix des voyageurs 2023. La plage de Kelingking est classée 2e en Asie et classée 6e dans le monde. Cette plage est la seule représentante de l'Indonésie dans ces deux catégories de plages. Bordées de hautes falaises, les eaux turquoises sont embrassées par des plages de sable blanc avec des panoramas incroyables. C'est comme le paradis sur terre. C'est l'un des avis sur la plage de Kelingking sur le site officiel du prix. Les touristes qui souhaitent visiter la plage de Kelingking peuvent descendre la falaise ou prendre un bateau. Cette plage présente des vues sur les eaux combinées avec les collines allongées. La place classée première sur la liste des meilleures places d'Asie pour 2023 est la place de Radhanagar dans les îles de Andaman et Nicobar Nand. Le gagnant de ce prix est déterminé à partir des avis des voyageurs du monde entier, tant en quantité qu'en qualité. Les avis ont été recueillis dans les 12 mois. Le nom de la place de Klinking est donné parce que l'entrée se trouve sur une falaise avec une colline qui s'étend en avance vers la mer ou ressemble à un petit doigt. De plus, on dit souvent que les falaises sur la place de Klinking ressemblent à une baleine couchée ou ressemblant au cou d'un Tyrannosaurus Rex. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Ku tak terlelap, ku terjaga. Kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan. 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran? Dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam.
Voice of Indonesia.
it five? Absurdity when I'm with you. One plus one isn't always two. But without you here by my side, the brightest day felt dark like night. I miss you so when you're likewise. So baby, let us make things right. Stop the silly fight. Baby, you don't have to go.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs, bonsoir, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de groupe The Groove, intitulée Dahulu. Chers amis, The Groove, ce groupe a été formé en 1997. La formation initiale du groupe Acid Jazz était composée de 7 membres, à savoir Rika Ruslan, chanteuse, Reza, chanteuse, Yuka Sampurna, basse, Ari, guitare, Tanto, clavier et synthétiseur, Ali, piano, Rehos, percussion et Deta, batterie. The Groove s'est fait connaître depuis la sortie de son premier album intitulé Ku Ingin en 1999 avec la chanson principale intitulée Dahulu. Cette chanson raconte la relation entre deux amants qui ne sont plus ce qu'ils étaient au début de leur relation. Bon, chers auditeurs, voici le Groove va chanter une chanson intitulée Dahulu. Bonne écoute.
Dahulu, semua indah. Dahulu, terasa berkelora. Dahulu, tiada
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.